Dans ce numéro du septembre 2005 du Monde Diplomatique, deux élections qui sont annoncées, celle en Égypte et celle en Allemagne. En Égypte, on va commencer parce que c'est la première, c'est celle qui commence demain, mercredi 7. En particulier, ces deux pages qui sont principalement consacrées à la société égyptienne s'intéressent aux frères musulmans. Quelques mots déjà pour rappeler aux auditeurs ce dont il s'agit. Avec vous, Alain Grech.
L'organisation des frères musulmans a été créée en 1928 en Égypte par un homme qui s'appelait Hassan el-Banna, qui était un instituteur. Elle a été pendant très longtemps la grande organisation politico-sociale. Elle ne s'est jamais définie comme un parti en Égypte, jusque l'arrivée au pouvoir de Nasser qui l'a écrasé. Elle a essaimé dans beaucoup de pays arabes et de pays non arabes, et donc elle apparaît comme ça, comme une organisation tentaculaire en Égypte. Donc l'article revient sur un peu l'histoire de cette organisation plus récemment, c'est-à-dire qu'au moment où Nasser meurt et au moment où le président Sadat prend le pouvoir, pour lutter contre la gauche et les marxistes, il libère les dirigeants des frères musulmans. Et il leur permet alors une situation assez curieuse, mais qui va se révéler être un avantage pour les frères musulmans, c'est-à-dire une organisation qui n'est pas reconnue officiellement, mais qui est tolérée. Donc, de temps en temps, on arrête ses dirigeants, de temps en temps. Mais en même temps, du fait qu'il n'est pas reconnu comme parti, il n'a pas à se soumettre à toute une série de conditions, y compris éclaircir son programme politique. Alors, ça correspond aussi à une période, les années 70, c'est celle où l'objectif de créer un État islamique est un objectif qui mobilise d'importantes masses en Égypte, mais dans toute la région. C'est au moment où le nationalisme arabe est en recul. Et le frère musulman apparaît comme le parti capable de porter ce projet. 30 ans après, l'élection présidentielle le montre, c'est un projet qui est complètement en crise. C'est un projet qui est complètement en crise parce que l'État islamique n'a été réalisé nulle part et que là où des tentatives ont été faites, elles se sont révélées catastrophiques. C'est aussi, d'une certaine manière, les contradictions nées de la force de la réislamisation dans tout le monde musulman. C'est-à-dire, un des objectifs des frères musulmans, c'était réislamiser. Et c'est vrai qu'on assiste partout à un retour à l'islam tout à fait important. Mais un retour à l'islam qui n'est pas du tout un retour politique. Au contraire, d'ailleurs, l'article le rappelle, et on l'avait montré dans un autre article qui s'appelait « L'islam branché de la bourgeoisie égyptienne », c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un islam de l'accomplissement individuel. C'est-à-dire, soyez bien dans votre peau, vivez bien, réussissez socialement, etc., etc., qui n'a rien à voir avec ce qu'était l'objectif de l'islam politique.
Une espèce de plus-value morale.
Voilà, plus-value morale. Et l'idée de l'État islamique ne mobilise plus personne. Ce qui force les frères musulmans, mais qui sont eux-mêmes divisés en différentes tendances, à éclaircir leur programme. Et aujourd'hui, ce qui est majoritaire, notamment dans les nouvelles générations, qui ont 40-50 ans, c'est un programme de type démocratique d'un côté, c'est-à-dire reconnaissance de la souveraineté du peuple et pas de la souveraineté de la loi divine, ce qui est quand même, du point de vue des islamistes, une révolution. Multipartisme, alternance, etc., etc. Et un programme, et je crois que ça c'est aussi important, un programme libéral. C'est économiquement libéral.
Ce qui est décrit dans cet article, c'est que les principaux promoteurs de l'islamisme politique, ce que vous disiez, pour un État islamique, ils sont en train de virer leur cutie complètement.
Ils sont en train de virer leur cutie. Et ce que l'article souligne aussi, c'est que cette orientation des frères musulmans a amené la rupture entre les frères musulmans et les couches les plus populaires. Ouais. Et donc là, ça crée un problème parce que ces couches, aujourd'hui, ne sont représentées ni par les forces de gauche, ni par les frères musulmans, ni par personne. Ce qui a été éclatant en Égypte, et ça, enfin, quand moi je vais, par exemple, le fait que au Caire, 90% des femmes portent le foulard. Moi, je suis né au Caire, j'ai vécu, ça n'existait pas. Et c'est pour beaucoup, contrairement à ce qu'on pense, des femmes de la bourgeoisie, de la petite et de la moyenne bourgeoisie, qui ont réintégré cette dimension islamique, mais qui ont aussi, en même temps, fait disparaître tout contenu social à cette revendication. C'est-à-dire, encore une fois, les frères musulmans, par exemple, ont été parmi les forces qui ont appuyé le démantèlement de la réforme agraire. Ils sont pour la privatisation. Donc, ils perdent ce qui était leur appui populaire. Et ce qui fait qu'ils sont aussi, c'est ce que montre l'article, en situation de faiblesse à l'égard du gouvernement. Et un des signes les plus intéressants, c'est qu'ils ne présentent pas de candidats, ils n'ont pas eu le droit de présenter de candidats, mais contrairement à l'essentiel des forces de l'opposition, ils n'appellent pas au boycott. Au contraire, ils appellent à voter. Et tout le monde a vu ça comme une espèce d'accord entre l'autorité et les frères, parce que en novembre, il va y avoir les élections législatives, et qu'ils ont, à titre d'indépendants, une vingtaine de députés, et qu'ils espèrent en avoir plus.